Mais il est complètement fou, ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Et bonjour à tous, bienvenue dans Complètement à l'Ouest, l'émission de Radio Immo où l'on parle de tout sauf d'immobilier. Et nous n'allons pas dérober à cette tradition en ce mois de décembre 2021, n'est-ce pas Philippe Boyer? Bonjour à vous.
Bonjour Johanna.
Vous allez nous parler cuisine aujourd'hui.
On va parler Europe et on va parler cuisine. Le 1er janvier 2022, la France présidera aux destinées de l'Union Européenne pour 6 mois. 6 mois pour parler Europe, 6 mois pour la consolider, pour la bonifier sur toutes ses coutures, défense, industrie, innovation, santé, sans oublier culture et produits du terroir, défense des saveurs et promotion de ses cuisines. Alors, et pour cette émission un peu particulière qui sera diffusée avant Noël, nous allons faire un pas de côté et pour une fois laisser tomber les thèmes traditionnels de Complètement à l'Ouest pour parler d'Europe, mais pas de n'importe quelle d'Europe. De cette Europe de la cuisine, de cette Europe du terroir, de cette Europe des traditions culinaires et tout ça, tout près de chez nous, puisque nous allons aller de l'autre côté des Alpes pour parler de cuisine et de saveurs italiennes. C'est parti, droit devant, larguons les amarres, cap à l'ouest, complètement à l'ouest, complètement en Italie.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
Bonjour Alessandra Pierini.
Bonjour.
C'est un grand plaisir de vous accueillir à ce micro pour cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest, ou plutôt, une fois n'est pas coutume, de Complètement en Italie, puisque cette émission sera à écouter quelques jours avant le réveillon de Noël et nous proposons à nos auditeurs de parler de Noël à la sauce italienne, si je puis dire. Alessandra Pierini, vous êtes la fondatrice de RAP, l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure épicerie italienne de Paris, et également une formidable cave à vin. Votre épicerie est située dans le 9e arrondissement, 4 rue Fléchier. Vous avez également le rang d'ambassadeur, puisque votre ville d'origine, Gênes, a fait de vous son ambassadeur dans le monde. Mais ce qui explique votre présence ici, à ce micro, c'est aussi l'apparition de vos très nombreux livres de cuisine. J'en cite quelques-uns. La pasta allegra, l'art de vivre à l'italienne, paru aux éditions de l'Épure. Mais aussi toute une collection de magnifiques petits livres qui portent tous le titre 10 façons de préparer. Alors quelques exemples. 10 façons de préparer le citron, 10 façons de préparer le fenouil, mais aussi la sauge, la fleur d'oranger, la mozzarella, le panettone. On y reviendra pour parler en détail de ce gâteau traditionnel de Noël. On parlera et on goûtera. Je n'oublie pas de dire que vous êtes aussi l'auteur en association avec le journaliste de France Inter, François-Régis Gaudry, d'un imposant et érudit livre sur les 1001 facettes de la cuisine italienne. On va déguster l'Italie aux éditions Marabout. Je dis imposant et érudit car c'est un livre monumental de 432 pages qui présente une centaine de recettes iconiques. À cela s'ajoute la présentation magistrale de presque tous les produits emblématiques de la gastronomie italienne. Bref, une ode à la gastronomie italienne et qui d'ailleurs, c'est la saison, pourrait faire l'objet d'un excellent cadeau de Noël. Mais avant qu'on parle de cuisine italienne, recettes de Noël, panettone et beaucoup d'autres choses, chaque émission commence par un court extrait sonore, on l'écoute.
C'est ce que j'ai commandé?
Oh, c'est le risotto, une recette spéciale que mon frère et moi avons ramené d'Italie.
Tant pis, je prendrai des spaghettis avec.
Pourquoi? C'est à cause des féculents, elle adore ça, dépêche!
Il y a pas de boulettes avec les spaghettis?
Deux frères arrivent en Amérique, porteurs d'un superbe cadeau d'Italie.
Quand vous mangez de bonnes choses, vous vous rapprochez du Seigneur. J'ai jamais trop su ce que ça voulait dire, mais c'est sûrement vrai.
Ils ont un don, la cuisine.
Non, pas ici, fais-le à table.
Ce qu'il leur faut.
Ils finiront par apprendre avec le temps.
C'est un restaurant ici, pas une école.
C'est la recette du succès.
Il s'agissait du film « À table » avec l'épopée de deux frères d'origine italienne qui popularisent la cuisine de leur pays aux États-Unis. Je vous l'accorde, ce n'est pas le film du siècle, mais au moins il permet de s'immerger dans notre sujet du jour. Alessandra Pierini, je sais que nos 35 minutes d'émission ne suffiront évidemment pas pour évoquer tout ce qui doit être dit sur la cuisine italienne, mais on va essayer de s'attarder en priorité sur les traditions de Noël en Italie. Que trouve-t-on sur les tables en Italie? De fait, quelles sont les spécialités? Sans oublier de s'arrêter longuement sur le symbole de Noël en Italie avec le panettone que l'on trouve d'ailleurs sur la table de ce studio. Mais auparavant, j'aimerais que l'on parle de cuisine italienne sous plusieurs angles, quitte à ce que vous puissiez nous rafraîchir un peu la mémoire. Alors d'abord, sur la hiérarchie des plats en Italie, antipasti, primer piatti, secondi piatti, rappelez-nous à quoi correspond cette ordre des plats et ce qu'on y mange pour chacun d'entre eux.
Alors déjà, il faut dire qu'en Italie, déjà, traditionnellement, on ne prend pas l'apéritif, chose que par contre font très bien les Français. Disons, c'est devenu un peu une mode récente, celle de l'apéro, mais surtout dans les villes du Nord. Donc on commence notre repas à table. Et à table, on démarre avec les antipasti. l'antipasti, antepastum, ça veut dire avant le repas. Donc, on mange tout ce qui est légumes à l'huile d'olive. On ne mange surtout pas de salade verte proprement dite, comme par contre on mange en France. Nous, la salade, c'est pour un accompagnement d'un des plats principaux. Et ce sont légumes à l'huile, ça peut être de la friture. Ce sont toujours des plats d'entrée préparés. Selon les régions, ça peut être aussi des crostini. C'est du pain sur lequel on badigeonne un condiment à base d'anchois, souvent, mais ça peut être de foie de volaille si nous sommes en Toscane, des bruschettes. Des bruschettes, ça fait comme des petites pizzas sur le pain, très savoureuses, très goûteuses, avec origlan, plein d'herbes sèches. Et c'est toujours assez abondant. Ensuite, nous avons le primo piatto et le secondo piatto. Le primo piatto, c'est toujours à base de carbohydrates, généralement. Donc, ce sont des pâtes de riz ou de la polenta. Les pâtes sont toujours assaisonnées. La polenta, c'est surtout un mets à base de farine de maïs qui se déguste surtout dans les Alpes, dans les régions de montagne, dans le nord de l'Italie. Le riz, c'est une grosse production italienne.
Pleine du pot.
Tout à fait, qui va du Piémont, Lombardie, de Vénétie. On oublie en fait que l'Italie, c'est un petit peu la patrie du riz aussi. Il n'y a pas que les pâtes. Et après, bien sûr, des pâtes qui peuvent être les pâtes sèches, assaisonnées en sauce. Les sauces variées de la gastronomie. Ça peut être aussi des pâtes farcies ou des pâtes dans le bouillon. On reviendra aussi après, que c'est une grande tradition de Noël. Le secondo, c'est le deuxième plat. C'est toujours une protéine. Bah, il faut, on essaie de ne pas trop manger, mais on mange après de la viande, donc du poisson. Et toujours avec un accompagnement qui est toujours à base de légumes cuisinés. Ça peut être froid, ça peut être chaud, mais ça peut être une caponate ou éventuellement, très souvent, des légumineuses, surtout en cette saison, haricots, pois chiches et aussi des pommes de terre. Après, nous avons le fromage, accompagné souvent d'une salade verte. Et nous avons rarement, dans la cuisine de tous les jours, le dessert. Le dessert, c'est vraiment le moment du goûter, du 4 heures. Ou alors, c'est réservé pour les repas importants, les repas à la fin de semaine, le dimanche ou le repas de fête. On mange vraiment très souvent des fruits ou des salades de fruits en Italie selon les saisons.
En dessert.
En dessert, oui.
Puisqu'on en est au béaba de la cuisine italienne, vous nous expliquez dans votre livre « On va déguster l'Italie », ce qu'il ne faut absolument pas faire avec la cuisine italienne. Petite pensée à tous ces gens qui mettent de la crème dans les pâtes carbonara.
Par exemple.
C'est interdit. Quelles sont les autres très mauvaises habitudes qu'on a et qu'il faut impérativement abandonner?
Alors déjà, on n'utilise jamais les pâtes comme un accompagnement d'un plat de viande ou du poisson, et ni le riz non plus d'ailleurs. Les pâtes et le riz, ce sont un plat à eux tout seuls. Et surtout, on ne sert jamais les pâtes sans être assaisonnées. Souvent, on voit des pâtes cuites à l'eau, sorties de l'eau et juste mises à côté d'une escalope.
Non, jamais en Italie, ça.
C'est pas
même
possible.
Avec un peu d'huile d'olive.
Il faut vraiment l'assaisonner à l'huile d'olive, mais ça ne sera jamais un accompagnement. Ça peut être un plat. On mange des pâtes à l'huile d'olive avec toujours un petit peu de parmesan dessus ou du pecorino si on est dans le sud de l'Italie. Et ensuite, on mange une viande, un poisson, éventuellement avec des légumes, mais jamais associé avec les pâtes.
Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Encore un dernier exemple, typiquement de ce qu'on trouve en France, par exemple.
On ne met pas de parmesan dans les plats à base de poisson. Surtout des pâtes aux fruits de mer, par exemple, qu'on mange très souvent. Non, mais jamais de fromage et surtout pas de parmesan sur ces pâtes-là.
Ça tue le goût? Pourquoi?
Il y a plusieurs explications. Bon, déjà, c'est vrai que c'est un plat de poisson, donc généralement, c'est le sud de l'Italie et le parmesan, c'est un fromage qui est originaire du nord de l'Italie. Donc, déjà, par des questions géographiques. Après, il y a aussi des questions religieuses, du fait qu'on ne mélange pas le fromage qui est issu d'une vache, du lait de vache avec un poisson, donc un produit de la mer. Et tout simplement parce que souvent ça ne va pas aussi, gustativement. Mais il y a quelques exceptions faites dans le sud avec des poissons très forts comme le thon ou alors aussi des moules dans lesquels on associe parfois des fromages de brebis.
Alors, on va parler dans un instant de ce repas de Noël en Italie, mais auparavant, je voulais vous faire réagir sur cette info parue il y a quelques mois et selon laquelle il se serait vendu en France au cours de cette année 2021 plus de mozzarella, 35 000 tonnes, que de camembert, 29 000 tonnes. Alors, on a bien compris que la mozzarella ne cesse d'émoustiller nos papilles, mais comment expliquer cette percée de ce fromage à pâte dont il existe d'ailleurs, notamment en Italie bien sûr, de très 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 nombreuses qualités, et en particulier avec les labels AOP?
Alors bon, déjà, je pense que la mozzarella est à la mode. Donc quand un fromage est à la mode, il a pendant un petit moment
il a le succès.
Et surtout parce que la mozzarella, c'est surtout un ingrédient, un fromage de recette. Mmh. Le camembert, c'est un fromage de plateau. Mmh. Le camembert, c'est un fromage qui a une connotation plus vieillotte. Mmh. Pour le français. Mmh. Moi, j'adore le camembert. Attention, la mozzarella, il y a ce côté jeune, le mets partout. Ouais. C'est doux, ça passe partout, ça file.
C'est frais.
On l'utilise en utilisant beaucoup dans la cuisine. On peut l'avoir aussi bien dans une entrée, on peut l'avoir dans un plat, après, dans une pizza, et on peut le manger ensuite aussi, à la limite, si on veut, comme fromage, mais toujours assaisonné. Donc, je pense que c'est un petit peu pour cette raison. Mais à mon avis, le camembert ne doit pas, surtout pas, se faire du souci vis-à-vis de la mozzarella.
Vous de rassurer, Sandra.
Moi, je dirais que le camembert doit se faire du souci par rapport au camembert même, le camembert au lait pasteurisé, de grande surface, des choses qui ne sont pas bonnes. Ouais. Mais le camembert, c'est un fromage de terroir et le produit de terroir restera toujours, toujours en place. Il y aura toujours ceux qui
On a
qui
plaisir à vous entendre. Allez, on va parler de ce traditionnel repas de Noël en Italie. Alors d'abord, et comme en France, j'imagine que ça dépend des régions, qu'on soit à Rome, à Catane, à Naples, à Turin, à Milan ou à Gênes, on ne doit pas forcément manger les mêmes plats. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a des saveurs ou des plats incontournables, un peu notre traditionnel dinde ou chapon de Noël? Comment ce repas se déroule? Qu'est-ce qu'on y mange? Qu'est-ce qu'on y boit? Bref, chère Alessandra, on veut tout savoir en peu de temps sur ce repas de Noël en Italie.
Alors, disons que c'est déjà la période de Noël, elle est très, très liée à la religion en Italie. Donc, Noël commence pratiquement du 8 décembre et ça se termine le 6 janvier. Donc, vous pouvez vous imaginer que des spécialités, il y en a à tous les moments de cette période. Mais surtout, dans le sud de l'Italie, on commence à fêter déjà le 24 décembre au soir, donc la veille de Noël. On mange maigre pour après faire un gros repas le 25.
En famille, le 25.
Jour de Noël, en famille. C'est, Noël, c'est toujours vraiment surtout dans le nord de l'Italie et dans le centre, surtout le 25 décembre. Et la veille, on va à la messe, généralement, jusqu'à la messe de minuit, et on mange di magro, on dit. On mange maigre, on mange des choses très frugales.
Comme un peu en
poisson,
Provence.
Des bouillons, comme en Provence. C'est une tradition qui est très proche. Après, bien sûr, comme les terroirs italiens sont sans limite, on peut manger énormément de choses et ça dépend un peu des régions. Mais c'est vrai qu'une note qu'on trouve commune, ce sont des pâtes dans le bouillon en entrée, un bouillon. Un bouillon, ça peut être surtout à base de viande ou de différentes viandes, ou aussi à base de poissons, aussi à base de légumes. Et dans ce bouillon, on mange généralement toujours des pâtes. Ça peut être des pâtes simples, des pâtes farcies, des raviolis, des tortellini. Les plus connus et ceux qui ont dépassé les frontières, ce sont les tortellini de Bologne. Ce sont des petites pâtes farcies à la viande et souvent aussi à la mortadelle, qu'on mange donc dans le bouillon. Et dans ce bouillon qu'on a fait à partir généralement de viandes différentes, cette viande, on la mange, qui est le bollito, on la mange en plat principal, accompagné de différentes sauces, dont la mostarda, qui est une
sauce. Ça ressemble à la moutarde, quand même.
Le nom ressemble à la moutarde parce que ce sont des fruits qui sont confits avec de l'essence de moutarde. Donc c'est très joli, coloré. Il y a un petit mélange de sucré et salé dans cette préparation. Et puis plus on descend dans le sud, plus on a tendance à manger des poissons, beaucoup d'anguilles. Le capitone, frit ou préparé in umido, donc cuisiné, mais aussi énormément de rôti, de brasato, le brasato al barolo du Piémont. Ce sont des viandes un peu comme une daube, cuisinées dans le vin.
Et la volaille qu'on trouve en France à travers la dinde ou le chapon, c'est aussi une tradition en Italie?
On a le chapon, on a la dinde, mais on a beaucoup de pintade aussi, qui est la faraone en Italie, qu'on la mange farcie et accompagnée de beaucoup de légumes à feuilles. Et il y a énormément un légume qu'on mange beaucoup pendant les fêtes de Noël, c'est le chardon.
Chardon.
C'est ça, comme en Provence, un petit peu comme en Corse.
Comment vous le cuisinez, le chardon?
On l'ébouillante et on le fait soit au four avec de l'huile d'olive et des fromages gratinés, soit tout simplement cuit dans un bouillon et s'accompagne comme ça la viande avec le jus de la viande.
On sort de table et pourtant, on a encore faim, Philippe.
Et on en a panettone sur la table du studio.
On va en profiter pour marquer une petite pause musicale avec le titre que vous avez choisi, Alessandra. Alors, je vais citer l'artiste, je vais vous laisser citer le titre parce que vous allez voir que mon italien est absolument exécrable. Donc, l'artiste s'appelle Raphaël Gualazzi et le titre...
Et qu'est-ce que vous avez choisi
un mare, un mar in luce,
c'est ça? Un mar in luce, exact.
Voilà, c'est tellement mieux fait comme ça. Allez, on l'écoute et on revient juste après dans Complètement à l'Ouest.
Se ti incontro un giorno che non piove, io ti sposo. E non dire no, che son tre vite che non riposo. Ma piove laggiù, sopra i campi, sopra il mare blu. Il vento è poesia, la notte madida di nostalgia. Ti ricorderò per la dolcezza che mi hai donato. Non mi illuderò di avere indietro quel mio passato. Ma vorrei laggiù, su quei campi, su quel mare blu, un po' di poesia, la notte magica e sei tutta mia, splendida, bella come un tempo, da far morire la realtà, sembrerà un inganno, con l'anima vedrai un mare in luce e ti accorgerai che quel mare in luce non finisce mai, se saprai ridere del tempo in questa vita, se vorrai, quando c'è buon vento potrai incontrarmi là nel mare in luce.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
Et on est de retour sur le plateau de Complètement à l'ouest pour cette émission du mois de décembre. Nous sommes accompagnés de Philippe Boyer, évidemment, et de notre invitée du jour, Alessandra Pierini. Alors Alessandra, on va parler de ce gâteau traditionnel de Noël en Italie, le panettone, que l'on vient de manger et qui est absolument délicieux. Courez à l'épicerie d'Alessandra, vous verrez qu'il est absolument incroyable. Juste avant, on va faire un petit détour culturel, si vous le voulez bien. Puisque il y a dans votre livre, on va déguster l'Italie, ce que la cuisine italienne doit aux Français et réciproquement. Vous écrivez par exemple qu'au Moyen-Âge, le verbe italien mangiare viendrait du français manger, qui remplace manducare. C'est comme
c'est ça
que ça se dit.
Ouais,
au 19e siècle, gatinare, scalopa trouvent leurs origines dans les mots français de gratiner et d'escalope. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des mots d'origine italienne qui se retrouvent dans le vocabulaire français?
Oui, énormément. Et surtout, ce sont bien sûr des mots qui sont liés à la gastronomie. Il y a une influence comme ça de la langue italienne sur la langue française, surtout à l'époque de la Renaissance. Et surtout, dernièrement, entre le 19e et le 21e siècle, et tous les mots qui sont attraits aux pâtes, par exemple, spaghetti, fettuccine, pappardelle, lasagne, ce sont tous des mots qu'on prononce très, très souvent dans la journée et qui sont bien sûr empruntés du vocabulaire italien. Mais il y a le mot riz aussi, donc, qui est riso en italien. Il y a le mot salade. Qu'on prononce très souvent, ça vient de salada, ce qui veut dire salé, hein, mais donc de un légume ou une herbe qui a, dans laquelle on met un petit peu de sel. Et puis il y a tous les plats comme le tiramisu, mais aussi le zabaglione, c'est cette crème à base d'œufs et de liqueur. Il y a salami, ça vient de salame, salamento, ça veut, ce qui veut dire saucisson.
Et donc, sans parler pizza.
Pizza et pasta, oui. Et des noms où souvent, comme spaghetti, en France, on met un S pour indiquer le pluriel, alors qu'en Italie, le I, c'est déjà un me au pluriel.
Alors, allez, on va parler à présent de panettone. Pour nos auditeurs, vous allez nous dire qu'est-ce qu'un panettone, d'où il vient, comment il se fabrique, comment il se déguste. Mais juste avant de vous entendre, je signale deux choses. D'abord que vous êtes l'auteur de Panettone, 10 façons de le préparer, paru aux éditions de l'Épure. Et ensuite que vous avez organisé à Paris le 16 octobre dernier la première édition du championnat de France de panettone. C'est une compétition qui s'est tenue à la mairie du 9e. Petite question préalable, avant qu'on parle vraiment de panettone, pourquoi avoir décidé d'organiser un championnat de France de panettone ?
Vu l'engouement qu'il y a des Français auprès de ce gâteau qui commence peut-être à remplacer la bûche de Noël en France. Qui sait ? Ou alors, je vois à l'épicerie depuis 30 ans en fait, de métier, j'ai pu voir vraiment l'évolution de ce gâteau. Et maintenant, nous, on le vend vraiment dans la période de production. Il faut dire que c'est vraiment notre gâteau du jour de Noël en Italie. Donc, on ne le mange pas à un autre moment de l'année. On commence à le fabriquer à partir aux alentours du mois d'octobre. Surtout les pâtissiers qui font ce gâteau selon la tradition avec du levain. Ils commencent à mettre en route donc, le levain, à préparer les pâtes donc, pour arriver à un aboutissement final du véritable panettone. Et donc, ça se commercialise entre octobre et décembre.
Et ça se mange partout en Italie, le panettone ?
Maintenant, ça se mange partout. C'est un gâteau qui est originaire de la Lombardie, donc de la région de Milan. Et ça fait partie un petit peu de ces gâteaux qu'au Moyen-Âge étaient répandus dans toute la botte. Et c'était panettone, et ça vient du nom pain, donc pane, le pain. Et c'est à la base, justement, un pain qui devenait un pain de froment pendant la période des fêtes. Le froment étant blanc, c'était rare de l'avoir à l'époque. C'était surtout au Moyen-Âge des pains de céréales complètes, qu'on avait donc des pains noirs. Donc avoir pour les fêtes un pain blanc, c'était joyeux et c'était riche. En même temps. Et c'était un pain que les boulangers offraient à leur clientèle. Dans la région milanaise, offraient à leur clientèle, absolument. Et au fur et à mesure des années, on a commencé à introduire soit des oranges confites, soit du raisin, ou alors du miel, quelques épices. Et ce pain de froment blanc a commencé à s'enrichir et à devenir, jusqu'à aujourd'hui, ce qui est le panettone. Et donc, c'est ce pain moyenâgeux, originaire de Milan, qui est devenu le panettone et qui est aujourd'hui, grâce aussi à des industriels des années 50, qui ont dit, tiens, on le fait en boulangerie, mais et si on essayait de le faire de façon un peu plus industrielle ? Et c'est comme ça, c'est M. Motta, donc de la maison Motta italienne, que maintenant c'est devenu une multinationale, et qui a commencé à faire cette sorte de papier, de ce moule en papier, qui est caractéristique du panettone. Et il a commencé à les cuire à l'intérieur, de façon que le panettone, il a pris de la hauteur pour qu'il pousse et qu'il devienne en fait le dôme. Qui est aujourd'hui
le Duomo,
comme le Duomo de Milan. Absolument.
Il faut dire aussi que le packaging et le marketing sont très beaux. On trouve des emballages de panettone qui brillent de mille feux et ça fait acheter.
Tout à fait, parce que le panettone, il faut vraiment l'acheter dans sa boîte et se balader. Vraiment, ça fait très chic de se balader avec une jolie boîte de panettone en guise de sac dans la rue. Et après, nous, les Italiens, on achète plusieurs. Et on commence à l'acheter un petit peu avant Noël. On le met sous le sapin, aussi bien le panettone que le pandoro, que c'est son.
Ça remplace les boules de Noël.
On a mis des tout petits souvent sur le sapin, mais il faut qu'il y ait des panettones avec des jolies boîtes ou des jolis papiers au pied du sapin de Noël. Et après, on les ouvre à la fin du repas et on commence maintenant à avoir vraiment du panettone, même en Sicile où ce n'était pas vraiment la région de production, mais tous les pâtissiers, boulangers s'y mettent.
Tout le monde s'y met et il a tout pour plaire, ce panettone. Est-ce que vous diriez qu'il est la nouvelle pizza, qu'il s'est répandu dans le monde ?
Disons que la pizza s'est répandue dans le monde parce que ce n'est que de l'eau et de la farine, en fait. N'importe où on va, on trouve de l'eau, on trouve de la farine. Et c'est ce plat, ce disque de pâte sur lequel on peut mettre un petit peu de tout. Là où on est, on peut mettre des choses. Après, ça peut devenir aussi des aberrations comme par exemple de l'ananas, mais Mais bon, c'est pour ça qu'il faut essayer de faire un petit peu attention. Oui, pourquoi pas. Et c'est pour ça qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on a fait un championnat de panettone, justement. C'est pour essayer pas de codifier, mais de dire ce que c'est, d'en parler d'une façon vraiment publique, pour dire ce que c'est ce panettone et qui est un vrai défi pâtissier. C'est un produit de pâtisserie les plus difficiles à réaliser. Et donc, les Français qui adorent les pâtes levées, ils essayent de faire ce gâteau et on aimerait qu'ils le fassent avec leur bon savoir-faire et selon la tradition italienne.
Quel prix pour un panettone de bonne qualité, forcément, qu'on trouve chez vous ?
Il faut compter environ 30 euros le kilo. Après, il faut savoir que le panettone est traditionnel et artisanal. Et en général, toujours dans des grosses pièces, jamais en dessous de 750 grammes. Comme toutes les pâtes levées, il est meilleur quand il est bien levé.
Avec de l'air dedans.
Bien sûr. Donc il faut de la place, il faut du volume pour que ça soit plus appétissant et moelleux.
Plein de questions autour du panettone. Et il y a notamment dans votre livre 10 recettes à préparer avec ce savoureux gâteau. Il y en a une qui m'a vraiment intrigué. Tortino des panettone à la saucisse. Gâteau sucré, on voit bien. Saucisse italienne, on voit aussi. Mais gâteau à la saucisse, il faut un peu que vous nous expliquiez.
Voilà, donc...
C'est pas un plat de Noël, déjà.
C'est pas un plat de Noël, ça pourrait le devenir. Donc, disons que j'ai fait ce livre dans lequel il n'y a aucune recette de panettone. Parce que la recette du panettone est très complexe. Donc, c'est très difficile de le faire à la maison.
On ne peut pas le faire à la maison.
C'est pas qu'on... Enfin, on peut tout faire, mais c'est vraiment très compliqué. Ça prend minimum 3 jours.
Ah oui.
Il faut vraiment avoir du levain. Et donc, les autres, des recettes soi-disant simplifiées, comme on voit un petit peu partout, en fait, ce sont des recettes de brioche. Donc, le panettone, ce n'est pas vraiment une brioche. Donc, si on le fait, il faut le faire dans des bonnes conditions. Donc là, je donne 10 façons de reprendre un petit peu les restes de panettone. Parce qu'à Noël, on en a beaucoup, souvent. Souvent, on le laisse un petit peu traîner, il sèche, malheureusement, parce que c'est l'air est l'ennemi du panettone. Et donc, avec ces restes, on peut faire plein de choses. On peut faire du risotto aussi, mais il faut imaginer un petit peu, ça pourrait être remplacé un peu une sorte de pain d'épices. Donc, dans cette recette, je prends du panettone, je le laisse un petit peu dessécher, je le mixe pour en faire un petit peu une poudre. Je le mélange à des œufs, un petit peu de farine. On peut rajouter des graines de fenouil comme j'ai fait, sinon on peut utiliser de la saucisse au fenouil que j'émiette. Et donc je refais comme une pâte, au lieu donc de la farine, il y a le panettone que je retravaille et je le mets dans un petit moule. Si on veut faire individuel, on peut mettre dans un plus gros moule si on veut le faire en forme de cake, par exemple. Je mets à l'intérieur la saucisse émiettée, je referme, je fais cuire ça au four et je mets au-dessus de la chapelure de pain. Ça cuit environ 20 minutes à 170-180 degrés et ça fait, des petites brioches comme ça, panettone et salé qu'on peut manger à l'apéritif. C'est vraiment délicieux et très appétissant.
Voilà, on sait tout sur la tortino des panettone à la saucisse, il y a également la soupe de courge à l'orange, bien sûr avec la panettone, risotto au panettone, croûtons de panettone, légumes en salade, bref, ce petit livre, le panettone, 10 façons de le préparer, il y a absolument des recettes fabuleuses.
Philippe, vous êtes quasiment prêt pour le championnat de France de panettone, là, j'ai l'impression.
Oui, alors, pourquoi pas, mais la question qu'on a envie de poser à Alessandra, c'est à quand la deuxième édition de ce championnat de France ?
Alors, on essaie de le faire tous les 2 ans. Donc on l'a fait cette année, ça sera la prochaine fois 2023. On suit un petit peu les rythmes aussi du championnat du monde parce qu'il faut dire que les vainqueurs donc de notre championnat de France sont sélectionnés pour le championnat du monde du panettone
qui se tient
à Lugano en Suisse. Donc le prochain sera normalement en 2022.
Très bien, promis, on donnera des nouvelles de ce championnat du monde de panettone à l'antenne. Voilà, nous sommes, Johanna, quasiment au bout. Malheureusement, on a 10 000 questions encore à poser à Alessandra sur la cuisine italienne, sur les produits et sur les vins italiens. Grazie mille, Alessandra.
Grazie, je reviendrai si vous voulez.
Avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission un peu spéciale, complètement en Italie. C'est une émission de Noël. On a hâte déjà d'être à Noël et peut-être quelque part à table en Toscane avec sa truffe blanche, Tartufo Bianco, c'est ça ?
Tartufo Bianco.
Voilà, ou à Milan pour savourer un véritable panettone. Je vous rappelle que pour nos auditeurs que si vous voulez organiser ce Noël italien, italien, vous trouverez tous les produits dans la boutique d'Alessandra à Pirigny. Le magasin s'appelle RAP, R-A-P, et est situé dans le 9e arrondissement, 4 rue Fléchier. Dans la rue juste à côté, au 61 rue de Faubourg-Montmartre, toujours dans le 9e, il y a cette autre boutique, et celle-là qui ne vend que des vins et des alcools italiens. On y trouve vraiment des trésors, croyez-moi. Et puis Alessandra, vous êtes aussi l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages sur la cuisine italienne, à commencer par cette collection de 10 façons d'or, on en a largement parlé. Sans oublier que vous avez co-signé avec François-Régis Gaudry aux éditions Marabout, on va déguster l'Italie. Et encore une fois, c'est une excellente idée de cadeau pour Noël. Buon Natale.
Buon Natale.
Ciao a tutti.
A presto.
Grazie mille. Voilà, cap à l'ouest, complètement en Italie ou à l'ouest, je ne sais plus. En tout cas, rendez-vous au mois de janvier 2022 pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. Grazie mille.
Grazie.
Il est complètement fou ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger.
Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.